Alors Étienne, aujourd'hui on va aborder rapidement, mais une question primordiale dans l'histoire de Bretagne, c'est la guerre de succession qui va durer presque plus de 20 ans même, qu'on a aussi appelé la guerre des deux Jeannes. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement les protagonistes et ce qui entraîne ce conflit, qui est bien sûr le manque de descendance du duc précédent?
Oui.
Descendance directe, disons.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est la guerre des deux Jeannes. On dit souvent la guerre des deux Jeannes, puisque leur mari recule un petit peu en importance historique derrière ces deux femmes assez extraordinaires. Donc, Jeanne de Penthièvre, dont on parlait, qui est la nièce de Jean III. Jeanne de Penthièvre est mariée avec Charles de Blois. Et Charles de Blois est un neveu, je crois, ou un cousin, je crois que c'est un neveu du roi de France. Il est donc très épaulé par le roi de France, et Jeanne de Penthièvre pense effectivement que la couronne à laquelle elle a droit, par son sang, hein, va lui revenir. Et Jeanne de Penthièvre va trouver face à elle, donc, Jean de Montfort, qui est le fils de la deuxième femme de son grand-père, Yolande de Dreux, et Jean de Montfort, lui qui va mourir assez tôt, il va mourir en 1345, eh bien Jean de Montfort, lui, il est marié avec Jeanne de Flandre, qu'on va appeler Jeanne la Flamme, et donc ça va vraiment devenir la guerre des deux Jeannes, une guerre épouvantable, au cours de laquelle les deux femmes vont laisser leurs maris, leurs amours et leur santé.
Presque un roman, hein.
C'est terrible.
Tragique quand même.
Mais oui, je crois qu'il y a vraiment... Il y a eu des romans, de toute façon, sur cette guerre des deux Jeannes. C'est la guerre des deux roses, c'est tout ce que l'on veut. Hein. C'est vraiment un affrontement terrible entre deux femmes, entre deux clans, entre deux pays, puisqu'encore une fois, ce sont les premiers combats français-anglais de la guerre de Cent Ans qui
Absolument.
Se déroulent chez nous, sur
Ça,
notre territoire.
Voilà, il faut bien le montrer le parallèle qu'il y a avec ce qui se passe aussi entre l'Angleterre et la France.
Bien sûr.
Nantes est la capitale, la capitale ducale, donc on peut imaginer qu'elle est en première ligne dans ce conflit.
Voilà, si Nantes joue un rôle important, c'est pas seulement parce que c'est une capitale ducale, c'est tout simplement parce que d'entrée de jeu, dès 1341, les deux principaux protagonistes, on va dire, hein, les deux maris, au départ en tout cas, ont bien compris que celui qui possède la capitale, celui qui possède la cité, va gagner la guerre. Et donc c'est un enjeu. Hein, et tout de suite, dès 1341, Jean de Montfort, qui sait très bien hein, que ça, son adversaire, hein, Jeanne de Penthièvre, du fait que son mari, Charles de Blois, est un proche du roi de France, est un parent du roi de France, il sait très bien qu'il ne va pas être soutenu par le roi. Et donc, il investit la ville. Il va y avoir des combats. Il va y avoir des combats assez importants, des combats mortels, des combats très durs à Nantes en 1341 et dans les mois qui suivent. On va aller très très loin. On va aller jusqu'à couper la tête à un certain nombre de représentants de la ville de Nantes et puis ensuite à jeter ses têtes dans la ville pour faire peur aux habitants. Enfin, c'est vraiment un moment très très difficile à vivre pour la ville.
Il y a des chroniques sur cette période.
Oui,
on en sait quand même pas mal sur ce qui s'est passé ici sur la cité.
Oui, on sait beaucoup de choses parce que de toute façon, dans la mesure où les rois de France et d'Angleterre vont être impliqués, hein, il y a derrière eux les chroniqueurs de l'époque, ceux qui les suivent. D'ailleurs, l'un des plus connus de l'époque, qui s'appelle Froissart, lorsqu'il parle de la cité de Nantes, il dit que Nantes est une cité, j'ai la citation là, je crois que c'est Nantes au début de la guerre de succession est une souveraine cité de Bretagne si étendue qu'aucune armée ne peut l'investir totalement, hein, puisque la ville est grande, elle est protégée par des murailles, elle est bien administrée jusque là. Et c'est vrai que bon, il va pas y avoir que Nantes, hein, c'est toute la Bretagne.
Non, c'est ensuite, la question que je voulais te poser. On peut imaginer Nantes la première cible, voilà. Mais on sait, pour en connaître un peu, c'est qu'il y a eu des combats bien ailleurs sur le territoire breton.
Voilà, c'est-à-dire que lorsque la ville est prise, d'abord dans un premier temps, il va y avoir un siège. Et puis au bout d'un moment, eh bien, l'armée royale donc, de Charles de Blois va repousser les partisans de Montfort. Et Montfort, lui, va partir chercher le soutien du roi d'Angleterre. Et donc c'est à partir de là qu'évidemment, on est au début de la guerre de Cent Ans. Voilà, c'est une chance pour le roi d'Angleterre, ça lui donne la possibilité de poser le pied sur le continent. Et donc on est là vraiment dans les prémices de cette guerre de Cent Ans, avec les batailles de Crécy, de Poitiers, mais tout ça, ça commence un peu chez nous.
Voilà. Oui. Il y a quelques combats, je veux dire, très très significatifs.
Ah oui, il y a des combats significatifs rapidement. Je dirais 1341-1345. Hein, là, il y a des combats assez nombreux qui tournent vraiment autour de la succession de Bretagne. D'ailleurs, ils sont faits prisonniers tour à tour, et puis gravement blessés. Et puis finalement, Montfort va mourir. Charles de Blois est gravement blessé. Il est gardé également prisonnier. Il va être rançonné. Ensuite, les combats vont devenir un peu plus sporadiques. Hein, mais à chaque fois, ce sont les populations locales qui payent.
Voilà, c'est la question que je voulais poser, justement. Ville et campagne souffrent.
Voilà, ville et campagne souffrent beaucoup. Et il faut savoir que les années 1350 sont des années très dures, de toute façon, pour les Européens. C'est la période de la Grande Peste. Et puis, donc la Grande Peste qui va provoquer la mort d'à peu près un tiers des Européens, donc un ralentissement de la vie économique, même si la Bretagne n'est pas trop touchée par la peste. Et puis, ces batailles, on passera facilement les bourgeois au fil de l'épée, hein, pour punir une ville d'avoir résisté. Les campagnes nourrissent les armées, et là, on brûle les fermes, on viole, on fait ce qu'on veut. Hein, et les gens vont vivre très, très difficilement toute cette période pendant un quart de siècle.
Voilà, alors on passe très vite, mais cette guerre de succession, comment va-t-elle se terminer ?
Alors, cette guerre de succession se termine assez d'une manière un peu surprenante. Au départ, le roi de France, le roi d'Angleterre avait donc clairement choisi leur parti. Et puis tout d'un coup, ils vont se désintéresser un peu de la Bretagne. Jeanne la Flamme, qui a hérité de son surnom, parce que lorsque son mari est fait prisonnier, hein, elle va mobiliser les troupes, elle va combattre comme un homme, et dans Hennebon, elle est prisonnière, elle est bloquée, elle va sortir de la ville, elle va tenter un coup de force, elle va mettre le feu aux tentes du parti adverse, d'où Jeanne la Flamme. Ce personnage assez extraordinaire, ensuite va revenir à l'intérieur de la ville, attendre des renforts anglais. Il y a donc toute cette partie de combat, on va dire, hein, et des combats qui vont durer, puisque les dernières batailles vont avoir lieu au Ré en 1360. C'est-à-dire 23 ans après. Au passage, il y a des moments assez importants, comme le combat des 30, hein, qui sont des moments qui sont restés un petit peu dans l'histoire de la Bretagne, lorsque 30 pro-anglais, 30 pro-bretons, français, etc., s'affrontent. Donc ça fait beaucoup de morts. Hein. Ça fait des centaines et des centaines de morts dans la noblesse, puisqu'évidemment, les chevaliers sont en première ligne, ce sont des questions d'honneur, quoi. Et puis les populations, comme tu l'as dit, sont effectivement durement touchées. Et après la bataille d'Auray en 1364, hein, il faut en finir. De toute façon, le deuxième protagoniste est tué à ce moment-là, hein, c'est Charles de Blois. Jean de Montfort est mort depuis longtemps. Vive en exil en Angleterre, donc sa mère, Jeanne la Flamme, et son fils, qui sera le futur duc Jean IV. Jeanne la Flamme est devenue folle. Elle ne sait pas que finalement, le traité qui va être signé à Guérande, quelques mois après la bataille d'Auray, lui est favorable, donne le pouvoir à son fils. Et de son côté, Jeanne de Penthièvre, qui est un petit peu vaincue dans tout ça, elle est vaincue, hein, elle reçoit quand même le droit de demeurer sa vie durant duchesse de Bretagne. Elle conserve des droits, elle conserve son rang. Hein, c'est un personnage très intéressant. Les deux sont très intéressants. Je dirais Jeanne la Flamme qui va jusqu'à la folie, mourir en exil. Elle finit 20 ans de sa vie à peu près en exil. Elle ne sait même pas, un exil, un château, un hôpital, on va dire, autour d'elle. Elle ne sait même pas que son fils est devenu le duc de Bretagne. Le roi d'Angleterre parraine. C'est presque un fils adoptif pour lui, ce jeune Montfort. Il lui donne même sa fille. Hein, il est marié avec la fille à Londres. Hein, et tout ça, elle ne le sait pas. Et pendant ce temps-là, donc Jeanne de Penthièvre, de son côté, elle est la duchesse battue, mais en même temps, elle garde beaucoup d'orgueil et beaucoup d'honneur. Et l'unité de la Bretagne, pour elle, est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle ne va jouer des possibilités que lui laisse le traité de Guérande contre l'unité de la Bretagne, ni même contre le jeune Jean de Montfort, qui finalement est quand même son vainqueur.